chers auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4, ainsi que Radio Mono à Châlons-Champagne. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. Donc on reprend avec ce lundi-là. Alors pour rappel, l'émission Mets de Résistance désormais c'est plus tous les lundis de 19h à 20h. Je le rappelle encore une fois, c'est tous les deuxième et quatrième lundi du mois, de 19h à 20h. Et à chaque fois on se retrouve. Alors quand il n'y a pas d'émission et de résistance, parfois c'est une rediffusion de moi, ou ça peut être aussi autre chose par un autre animateur de Radio Galère. Aujourd'hui on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien. Quelqu'un qui s'appelle Odile Maujon. Je vois que parmi nos auditeurs, certains sont contents de la retrouver. Je ne les vois pas, mais je le sens. C'est que par perception et par intuition. Pourquoi ? Parce qu'Odile fait toujours des émissions très intéressantes et très pertinentes. Et là, aujourd'hui, elle va nous parler de son association qu'on ne représentera pas parce qu'elle a déjà présenté plein de fois à la radio. Vous n'avez qu'à écouter, chers auditeurs, les podcasts qui sont à votre disposition sur le site de Radio Galère à l'emplacement Mets de Résistance. Et simplement, l'Institut Schiller, qui est l'association au sein de laquelle évolue Odile, dans laquelle elle est très active et pour laquelle elle voyage, elle va parfois en Chine, en Italie ou aux États-Unis, pour ne citer que ces États-là, eh bien, pour une fois, le grand meeting de l'Institut Schiller a eu lieu à Paris. C'était il y a 15 jours, je crois. Je laisse Odile vous en parler.
Oui, bonjour à tous. Et alors, effectivement, on a eu ce meeting qui a eu lieu il y a un petit peu plus longtemps déjà, c'était au début novembre, donc le temps a filé très très vite. Et juste pour préciser, alors oui, c'est une réunion de l'Institut Schiller, mais la manière dont ça s'est fait est un petit peu spéciale, parce qu'au départ, c'était une réunion de solidarité et progrès en tant que telle, dans laquelle il y a eu donc, qui a invité une très grosse délégation de l'Institut Schiller, venant de différents pays, notamment des États-Unis, d'Amérique latine. Donc y a, voilà, enfin, on a eu des gens d'un petit peu partout. Et donc, c'est devenu un événement conjoint, en réalité, voilà, tout simplement. Donc, il y a eu une partie qui a été plus spécifiquement sur la France. On a eu, par exemple, Jacques Cheminard qui est intervenu, des amis qui sont très présents, qui militent aux États-Unis, comme Diane Serre. Et puis après, on a eu effectivement toute une partie plus sur les thèmes habituels de l'Institut Schiller, notamment toute la question des BRICS. Et là, le thème en particulier, c'était l'émancipation de l'Afrique et de la majorité mondiale, un défi pour l'Europe. Et on a bien mis ça, cette question du défi pour l'Europe, parce que l'Europe ne s'est pas encore réveillée sur la réalité de ce monde.
Alors, une petite question. Tu dis l'Europe. L'Europe ou l'Union européenne ?
Je dis bien l'Europe.
D'accord. Ok, on est bien d'accord avec toi. Oui. Tu suis cette doxa selon laquelle la véritable Europe, celle de l'Atlantique à l'Oural, serait celle, non pas celle de l'Union européenne, mais celle que l'on retrouve un peu dans l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, et derrière derrière la Cour européenne des droits de l'homme qui est à Strasbourg d'ailleurs, tout comme le Parlement européen. C'est très important, en fait, c'est une autre Europe qui se dessine, qui englobe des États qui, a priori, ne font pas partie de l'Union européenne, et même parfois des États qui ne sont pas sur le continent européen, mais qui sympathisent.
Ah bah, de toute façon, l'Europe, c'est une réalité historique qui est là, c'est une réalité historique et politique et économique et culturelle, et c'est de ça dont je parle. Hein. Je sens même entrer dans toutes les autres considérations. L'Union européenne, là, on parle de quelque chose d'autre, on parle de
l'âme européenne, quelque part.
Si on veut, oui, on peut le mettre comme ça, oui. Mais en tout cas, bon, je précise, je ne parle pas de l'Union européenne quand je parle de l'Europe. Et pour revenir, à ce qu'on a essayé de mettre en avant, il y a eu une petite couverture, justement, dans un journal africain, c'est un journal du Togo et du Bénin, qui a fait une petite présentation. Alors, eux, ils disent, la nouvelle génération, je vous cite, hein, la nouvelle génération africaine fait entendre sa voix. Une voix claire, déterminée, décidée à prendre part au grand débat qui façonne l'avenir du continent et du monde lors du panel consacré à la jeunesse africaine engagée pour la paix. Des jeunes venus d'Afrique du Sud, de Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Niger et de Guinée équatoriale ont partagé leurs analyses, leurs inquiétudes, mais surtout leur vision. Donc ça, c'est pour donner un petit peu ce sens. Et en particulier, on a eu, je ne vais pas citer tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, mais je vais simplement citer ceux qui me paraissent très 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 représentatifs. On a eu une jeune femme qui s'appelle Princy Mthombeni, je le prononce peut-être mal. Elle est sud-africaine, elle est fondatrice de l'organisation Africa for Nuclear, l'Afrique pour le nucléaire, et elle avait un discours qui s'intitulait « L'Afrique doit atteindre la masse critique ». Et c'est très beau ce qu'elle a dit. Alors, elle, en fait, elle ne pouvait pas être présente en personne, donc elle a envoyé une vidéo. Et donc, elle commence en disant, je cite, elle a encore, « Même si je ne peux pas être présente en personne, il me semble symbolique de me connecter depuis une partie du monde qui lutte encore pour sa sécurité énergétique à une autre qui la maîtrise depuis longtemps. » En effet, dans le monde nucléaire, lorsqu'un réacteur atteint la masse critique, cela signifie qu'il a atteint une réaction en chaîne auto-entretenue. L'énergie circule, le système est vivant. Et c'est exactement ce que je souhaite pour l'Afrique, que nos nations atteignent la masse critique, atteindre ce point d'autosuffisance où notre croissance, notre innovation et notre progrès sont alimentés par nos propres capacités et non par une autorisation extérieure ou une énergie importée. Donc voilà, je trouve ça très 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 emblématique de là sur la question du nucléaire, mais du ton et de ce que voulait dire, ce que portaient les différents intervenants africains qui étaient là. On a eu des gens très intéressants. On a eu, je vais citer très 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 brièvement. Hein. Donc il y avait une docteure en histoire des relations internationales, Philomène Ebi Ngodo de Côte d'Ivoire, qui était présente. On a eu Zenobita Maganga qui a été beaucoup remarquée parce qu'elle est intervenue. C'est une militante pour la paix et la cause de la République démocratique du Congo, où elle a donné un sens de ce qui se passait en RDC, notamment au travers des massacres, parce qu'il y a une situation qui est absolument catastrophique. On en parle très rarement, mais il y a eu des millions de morts, de blessés, enfin des massacres absolument abominables, dont elle-même d'ailleurs a été victime. Il y a eu Dora Mwanda, qui en fait, elle est la représentante de la ministre de l'Éducation de la République démocratique du Congo, donc elle a pris la parole sur la question de l'éducation. Du Niger, Shekarau Alidou Nawaima, qui est un panafricaniste. Mariano Ngema Ezonomeja, qui est professeur de relations internationales de l'université de Guinée équatoriale. Bon, ça, voilà, parmi les personnes qui sont intervenues. Et dans ce panel, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'intervenir moi-même sur la question de la Palestine, ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe à Gaza. Voilà, pour donner une petite présentation sur cet angle de l'émancipation de l'Afrique et pourquoi c'est important pour l'Europe, parce que l'Europe et la France tout particulièrement en tant qu'ancienne puissance colonisatrice, si on reste dans une attitude de grincer des dents en regardant ce qui se passe en Afrique, ça veut dire qu'on n'a rien compris, mais rien compris de ce qui se passe. À l'heure actuelle, on a la possibilité de travailler avec ces pays africains si on change d'attitude. Ce qui est très clair, ce que nous avons vu, c'est que il y a cette formidable croissance, mais il faut qu'on change d'attitude par rapport à cette croissance, ce développement qui n'a que trop tardé et que malheureusement la vision colonialiste a cherché à empêcher. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, ça se fait.
Oui. Une vision colonialiste, mais on pourrait dire aussi, Odile, je pense que tu vas être d'accord avec moi, et à mon avis, ça a certainement dû être évoqué lors de la conférence, une vision aussi également post-colonialisme, colonialiste. On a beaucoup parlé du post-colonialisme français à travers le terme de France-Afrique, qui a été beaucoup critiqué au point qu'on ait un président qui en 2007 a voulu, lors du traditionnel forum annuel France-Africain, où la France convoquait l'intégralité des chefs d'État africains, je crois que c'était à Nice, il a proclamé que ça allait être non plus la France-Afrique, mais l'Afrique-France. Mm-hmm. Il avait convoqué tous les chefs d'État au sommet de l'Afrique-France. Mm-hmm. À ce point-là, c'est au point que, malheureusement, après, ça n'a pas changé grand-chose, ça a juste changé le nom du sommet. Mais la France-Afrique est toujours présente, elle a toujours été plus ou moins, de manière plus ou moins détournée, sous de différentes formes. Ce phénomène-là se traduit par une volonté des États colonisateurs, et anciennement colonisateurs, et là je parle de la France en l'occurrence, de conserver leur réseau et de conserver certains privilèges peut-être qu'ils ont eu, voire, j'allais dire, parfois, conserver la gouvernance de l'État concerné, en faisant en sorte de nommer les bonnes personnes au sommet de l'État et à empêcher le véritable paradigme démocratique de se jouer dans les pays en question, en fait. Je pense par exemple à Thomas Sankara qui n'est plus. Est-ce que la France a aidé ou pas, ça j'en sais rien, mais en tout cas il n'est plus là, il y a quelqu'un d'autre à sa place. Récemment il y a eu beaucoup de gens qui étaient en place, qui sont partis suite à des coups d'État. Et je me suis demandé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et tous ces États, tous ces chefs d'État-là nous étaient très favorables à nous, Français, et je m'étais laissé entendre que peut-être que s'ils étaient à la tête du pouvoir dans ces États-là, c'est justement pour pouvoir rester amis avec la France, parce que la France les a aidés, les y avait aidés, de façon à pouvoir conserver certains privilèges. Et je ne le nierai pas, certaines relations particulières qui sont issues de plusieurs décennies de colonies et de marcher ensemble. Et les chefs d'État, il y a un moment où il y a eu au moins 5 ou 6 putschs, notamment en Afrique de l'Ouest. Et tous les chefs d'État nouveaux, ceux qui sont mis en place après des putschs, ont eu quelque chose en commun, c'est que à chaque fois, ils ont rompu les relations diplomatiques avec la France, avec une envergure plus ou moins importante. Certes, certains ont continué à discuter avec nos politiques, d'autres ont complètement coupé les ponts, mais en tout cas, le peu de choses en commun qu'il pouvait y avoir entre la France et l'Afrique de l'Ouest, du moins, je ne parle pas du reste de l'Afrique, mais surtout l'Afrique de l'Ouest, où la France, qui avait été longtemps sur le territoire, avait noué des liens vraiment privilégiés, où elle aurait pu faire des choses positives, tout ça, c'est parti en fumée après ces putschs, donc c'est-à-dire entre 2020 et aujourd'hui. Mmh. Donc, quelles conclusions est-ce qu'on pourrait tirer de ce phénomène, à ton avis? Moi, j'en tiens à juste une petite chose rapidement avant de te poser, que tu répondes à ma question. Juste dire que la France maintenant se retrouve un peu isolée par rapport à l'Afrique. Elle s'est fâchée un petit peu aussi avec l'Algérie. La France n'a pas su tirer profit de manière positive de son passé de colonisateur. Et elle n'a pas su maintenir les liens d'amitié qu'il a noué avec l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb.
Alors, d'une part, pour revenir par rapport à ce que disait Macron, je crois que de toute façon, ça, autant on emporte le vent. La voix de Macron, à l'heure actuelle, elle pèse à peu près chipette, hein, franchement.
Ça, c'est du politique, c'est conjoncturel, ça peut changer.
Oui.
Peu importe.
Oui.
Enfin, parlons plutôt de la voix de la France, quoi. Quels sont les faits?
Voilà, exactement. Oui. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le président, ça, c'est une chose. Après, il y a les intérêts économiques de la France, la France-Afrique, on pourra dire. Ça, c'en est une autre. Et après, il y en a encore une autre, qui sont les Français eux-mêmes. Et de ce que je vois...
Ah, et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui.
Voilà, c'est de ça dont on veut parler. En ce qui concerne la France-Afrique, de toute façon, justement, c'est le... Comment dire, je trouve que c'est même pas très intéressant d'en parler d'une certaine manière, tellement de toute façon ça a été dénoncé à juste titre. Et je vais juste prendre un exemple. Là, le Niger, qui était le fournisseur de d'uranium pour la France, que je sache, à cette heure-ci, il a coupé maintenant, il n'y a plus du tout de marché, ou peut-être marginalement, voilà, avec la France, c'est-à-dire qu'on n'a plus de fournisseurs d'uranium pour nos centrales nucléaires au Niger. Le Niger ouvre d'autres marchés et veut se désengager de la France. Et il a raison, moi je suis désolée de le dire, mais il a parfaitement raison, puisque nous, on facturait nos grandes entreprises qui alimentent la filière nucléaire. Je crois que les prix, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais c'était quelque chose comme de l'ordre de 5 à 6% des prix du marché pour l'uranium. Hein. Mmh. Donc c'est-à-dire que en fait, c'était vraiment une extorsion, ni plus ni moins, avec un rapport d'une position de domination économique et commerciale. Et ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que quand on se moque des gens de manière aussi énorme, il ne faut pas s'attendre à ce que ça dure éternellement. Donc là, est arrivé ce qui devait arriver un jour. Là, je parle du cas du Niger, mais on pourrait dire la même chose avec la plupart des autres pays. Donc c'est pour ça qu'il y a un changement qui est nécessaire aujourd'hui. Et de toute façon, la lame de fond, elle est là. Et ça, c'était un des thèmes aussi, d'ailleurs, de la conférence, parce que je voudrais revenir là-dessus. D'une part, déjà, il y a eu on avait la chance d'avoir la présidente internationale de l'Institut Schiller qui était présente, qui est Elgatsep Larouche. Et tout le thème de son discours, c'était pour un nouvel ordre mondial fondé sur la coïncidence des opposés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a commencé avec quelque chose de très intéressant, par le fait qu'il y a une institution qui s'appelle la Société économique de Westphalie et de Lippe, qui est composée de personnalités où on retrouve des anciens ministres comme Zygmunt Gabriel, Friedrich Merz, des personnalités politique importante allemande et non allemande d'ailleurs. Et donc ils ont décidé d'attribuer le prix de la paix de Westphalie. Donc je ne sais pas si les gens savent ce que sont les accords de Westphalie, mais c'est quelque chose qui a mis
fin. Tu peux nous l'expliquer si tu veux.
Oui, c'est en 1648 en fait des accords qui ont été faits et qui ont clôturé les décennies de guerre de religion qui avaient déchiré l'Europe, qui avaient tué, enfin je crois qu'il y a un tiers de la population européenne ou peut-être même plus qui avait été trucidé, enfin ça a été vraiment une horreur. Et à un certain moment quand même se poser la question, bon il faut qu'on... Personne n'y gagne, il n'y avait pas de gagnant dans cette... Il n'y avait que des perdants. Donc on fait la paix. Et l'intérêt de ces traités de Westphalie, c'est que d'une part, ils prenaient en considération l'avantage de l'autre. C'est-à-dire, en gros, ils disaient, on ne va pas pouvoir faire une paix unilatérale, il faut qu'on prenne en considération les intérêts des autres. Et le traité de Westphalie est connu comme ayant fondé en réalité le droit international. Et même s'il y a quand même eu des guerres qui ont eu lieu depuis les traités de Westphalie, grosso modo, ça a quand même maintenu un ordre des choses à peu près civilisé, on pourra dire, enfin, encore une fois, jusqu'à un certain point. Sauf que maintenant, il y a des politiques qui disent carrément ouvertement, de toute façon, les traités de Westphalie, c'est terminé, on revient à la loi du plus fort, en gros. Et c'est ce qu'on vit. C'est exactement ce qu'on vit. Et là, attribuer le prix de la paix de Westphalie à l'OTAN, c'est vraiment c'est du délire orwellien. Hein, comme elle l'a dit d'ailleurs à un certain moment dans Orwell, dans 1984, c'est toute la novlangue de Orwell, où il appelle le ministère de la torture, est appelé ministère de l'amour, le ministère de ce qui est le ministère du mensonge est appelé officiellement le ministère le ministère de la vérité, pardon, etc., etc., etc. Donc, et ça signale la vision justement, alors là, de l'Union européenne, de l'OTAN à l'heure actuelle, cette vision purement offensive. Et en fait, Madame Larouche, elle dit, ok, ça, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais il y a un changement qui vient de s'opérer, quelque chose de très important qui est passé totalement sous les radars, c'est la déclaration du pape. Le pape Léon XIV.
Ah, je t'écoute avec plaisir, je ne savais pas.
Alors, Léon XIV, en fait, a fait dans... C'était au mois de novembre, je pense, non, ou fin octobre, fin octobre, oui, ça doit être ça. Il a fait en fait une déclaration extrêmement importante lors d'un jubilé. C'était le 25 octobre, oui, c'est bien ça, voilà. Où il a parlé de quelqu'un qui s'appelle Nicolas de Cuse. Nicolas de Cuse, personne ne connaît à l'heure actuelle, sauf les spécialistes. C'est un cardinal, c'est un théologien, c'est un scientifique, et c'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important en tant que diplomate. Et donc,
à quelle époque, pardon ?
Alors ça, c'est au 15e siècle.
C'est-à-dire, si on peut retrouver à peu près dans l'échelle de la généalogie royale française.
Alors là, tu me poses une colle. Qui est-ce qui était là? C'était pas d'autant plus que j'ai pas sa date. J'ai pas sa date.
Ça fait rien, c'est pas grave.
Sa date précise.
Nos auditeurs iront chercher par eux-mêmes.
Exactement. Voilà.
Tapez dans Google Nicolas de Cuse.
Voilà, exactement. Et donc, oui, c'était un discours jubilaire où il y avait des milliers de personnes. Et donc, il cite Nicolas de Cuse, et c'est très important parce que Nicolas de Cuse, c'est quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, c'est une période qui est très tourmentée, hein, l'époque. Et donc, lui, il essaye d'aller repuiser. De relire les classiques en particulier, de se faire son idée de ce qui se passe par lui-même. Et là, donc, pour citer Léon XIV, il dit « au cours d'une autre époque troublée, le XVe siècle, l'Église comptait un cardinal encore peu connu aujourd'hui. C'était un grand penseur et un artisan de l'unité. Il s'appelait Nicolas, il était originaire de Cus, en Allemagne, et il est connu sous le nom de Nicolas de Cuse. Nombre de ses contemporains vivaient dans la peur. D'autres prirent les armes et préparèrent de nouvelles croisades. » C'était l'époque des croisades, hein, entre parenthèses. « Nicolas, cependant, choisit dès son plus jeune âge de fréquenter ceux qui gardaient l'espoir, Avec eux, il développa de nouvelles disciplines, relut les classiques et retourna aux sources. » Il croyait en l'humanité, il comprenait qu'il existe des contraires qui doivent coexister, que Dieu est un mystère et que ce qui est en tension trouve l'unité. Nicolas savait qu'il ne savait pas et c'est ainsi qu'il parvint à comprendre la réalité toujours plus profondément. Alors, pourquoi c'est important? Lu comme ça, c'est peut-être un petit peu abscon, hein, c'est peut-être, voilà. Mais il y a plusieurs choses là-dedans. D'une part, l'Église catholique a toujours été, et surtout à cette époque-là, il y avait deux visions des choses totalement opposées. D'une part, une vision très fondamentaliste, tous ceux qui pensent que seule la Bible permet de comprendre Jésus-Christ et le christianisme, et d'autres, une tradition qu'on dit augustinienne, qui considère qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la science. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la foi et la science. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui a une foi extrêmement profonde peut l'approcher aussi d'un point de vue rationnel, de chercher à comprendre le monde par sa raison. Et ça, c'était quelque chose de totalement révolutionnaire, d'autant plus que une autre des divisions de l'Église qui était très importante, c'était toute la question de l'aristotélisme. Et l'Église était très dominée par une vision aristotélienne, c'est-à-dire de la logique pure, dans laquelle on dit A et non A. Et en gros, ce que dit Nicolas de Cuse, il dit c'est vrai jusqu'à un certain point, mais la réalité, c'est que si on se passe d'un point de vue supérieur, cette logique binaire, elle n'est pas nécessairement vraie. Donc ça a vraiment des conséquences très 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 importantes. Et une des conséquences de ça, elle a été développée justement par Jacques Cheminade, parce que si vous êtes dans un système binaire, j'essaie de retrouver.
Ça, c'est son intervention, hein, c'est ouais, ça c'est intervention. Sur le cas français, tu m'as dit tout à l'heure.
Alors, il a beaucoup. Oui, c'était plus vaste. Il est revenu sur un certain nombre de. Comment dire de, comment ça se décline en France. Mais en fait, il est allé plus loin. C'est-à-dire qu'il a rebondi en quelque sorte sur ce que disait, ou il a anticipé, devrais-je dire plutôt d'ailleurs. Sur ce qu'a dit Madame Larouche, en reprenant l'exemple, Parce que cette question d'aller fouiller dans les classiques, je ne sais pas si des gens se rendent compte à l'heure actuelle, parce que de toute façon, les classiques, ça veut dire tas de poussière, la bibliothèque pleine de poussière, ouais. avec des trucs qu'on ne comprend pas et qui sont inintéressants.
Parce des choses que tu as survolées au lycée.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en fait, Jacques Cheminade, nous sommes au XXIe siècle, il a commencé son discours politique en citant le quart livre de Rabelais. François Rabelais. Donc, je ne sais pas si des gens situent qui est François Rabelais, mais c'est pareil, on est au 15e, 16e siècle, ça ne nous rajeunit pas, et ce sont des gens qui ont joué un rôle absolument essentiel. Et en gros, Rabelais, il a décrit notamment, il y a une scène qui est très 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 fameuse, qui est très connue, qui est la scène de la tempête, c'est-à-dire que c'est une allégorie, évidemment. C'est une allégorie où la société qui est représenté par un bateau, traverse une effroyable tempête. Et dans cette tempête, ceux qui prennent le gouvernail, qui sont capables d'amener le bateau à bon port, ce n'est pas ceux que l'on pense. Et donc, Rabelais, en fait, veut dire là-dedans, il dit celui qui prend le gouvernail, en fait, il est coopérateur avec Dieu. C'est une idée quand même assez extraordinaire. Alors Jacques Cheminade a dit, ben voilà, en réalité, on peut traduire ça dans un langage plus moderne, c'est que celui qui prend le gouvernail et qui sait mener le bateau à bon port en plein milieu de la tempête la plus effroyable, c'est le coopérateur avec le destin commun de l'humanité. Et c'est là, aujourd'hui, parce qu'on est dans et c'est le thème sous-jacent, c'est-à-dire que en plein milieu de la tempête qu'on connaît, comment est-ce qu'on fait pour en sortir à bon port? Et là où je reviens sur la question qu'il a développée,
ça rappelle Fluctuat nec mergitur, le blason parisien, enfin la symbolique parisienne de tu ne couleras jamais, non, quelque oui. part, puisque oui, tu nous dis il faut un pilote, un navigateur. Oui, qui traîne les autres qui sont dans la barque. Finalement, ça fait penser à tous ces réfugiés qui, justement, on allait déjà en parler, viennent d'Afrique, parce que chez eux, ça se passe pas bien, ouais. aux grandes dames des Européens. Et puis, ça fait penser aussi, ben, justement, à cette fameuse devise.
Oui, oui, alors c'est vrai, sauf que fluctuat nec mergitur peut laisser penser qu'on a un bateau insubmersible, hein. Et que par lui-même, bon voilà, mais il faut...
Chose que tout le monde croyait à l'époque du Titanic, et oui, ils se sont trompés, mes amis.
Ouais, voilà, c'est voilà, la seule chose.
Ils se sont trompés à l'époque du Titanic, alors attention, n'allez jamais croire aux insubmersibles, même à notre époque.
Mais donc pour revenir, pour faire le lien entre Nicolas de Cuse et ce qu'a amené Cheminade par rapport à la France en particulier, où il dit à un certain moment, il parle de notre plus terrible faiblesse, parce qu'il parle, il avait fait toute une intervention sur le fait, tout ce qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire que je récapitule très très brièvement, mais comme vous le savez, bon, la France à l'heure actuelle, Macron est totalement dans cette idée de l'Union européenne, totalement dans cette idée qu'il faut une économie de guerre. Je crois qu'on en a déjà parlé les fois dernières, d'ailleurs, si je me souviens bien.
Oui.
Hein, voilà. Il est totalement en phase avec l'Union européenne, avec le diktat que maintenant il faut passer de 2% à 5% des dépenses budgétaires allouées à la défense. Et non seulement on a eu ça, mais on a quand même eu Pierre Schill, notre chef d'état-major de l'armée de terre, qui a envisagé le déploiement de nos soldats en Ukraine. Le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui lui envisage un choc armé dans 3 à 4 ans, provoqué par la Russie, hein, auquel bien sûr il faudrait qu'on réponde. On a aussi le Hubert Bonneau, qui est le directeur général de la gendarmerie nationale, qui s'est dit prêt à réprimer les troubles intérieurs consécutifs à cet état de guerre. Quand même, on est dans ce genre de choses, hein. On a Pierre Vendier, qui est le commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN, qui promeut une intégration des moyens européens et nous prie d'arrêter de faire de l'OTAN bashing. Il ne faut pas critiquer l'OTAN, c'est pas bien. Voilà, alors que bon, là on vient de voter un budget où on va piquer les 4 milliards dans le budget de la Sécu, hein, on va dérembourser des diabétiques, etc., etc. Enfin, c'est quand même grave ce qui se passe. Donc, en revanche, il y a des sociétés de défense, par exemple, il y a un indice boursier qui s'appelle le Stoxx Europe Targeted Defense, qui a gagné 102% au cours des 10 premiers mois de cette année. 102% quand même, c'est énorme. Et il y a des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans la défense, qui ont été créés par des banques françaises. Et la Direction Générale de l'Armement, qui a même créé un club des investisseurs désireux de soutenir nos entreprises de défense.
D'accord.
Donc ça, ce que dit Cheminade à partir de ça, il dit ça, c'est notre plus terrible faiblesse, c'est la façon de penser et la façon de penser de ces gens-là. Et ce qu'il dit, ils ont une façon de penser qui est victime justement de cette vision aristotélicienne. Aristotélicienne, qui nous fait rester au même niveau, c'est-à-dire où les choses ne sont pas compatibles, c'est A non A, n'est-ce pas? Voilà. Et en fait, lui, ce qu'il dit, si on reste dans cet aristotélisme, on est à un niveau où l'autre ne peut être que contradiction. Par définition, d'une certaine manière, vu qu'il n'est pas nous. Il est forcément. Vu qu'il est autre et qu'il n'est pas nous, on est dans la contradiction. Et donc, son bonheur ne peut être compatible avec le mien dans un ordre gagnant-gagnant. Si je parle de gagnant-gagnant, alors là, je suis un fou parce que, vous voyez. Donc, l'autre devient mon ennemi existentiel. Alors, j'ai besoin de cet ennemi pour exister, en quelque sorte. C'est la logique de l'anti-ceci, l'anti-cela, l'anti-tout, on n'est jamais pour, et qui mène fatalement à la géopolitique et qui mène à une vision ami-ennemi et qui mène à la guerre. Et on est en plein là-dedans. Et le seul ennui, c'est que d'être là-dedans d'un point de vue de la société, d'un point de vue social, c'est déjà très, 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 très... C'est pas vivable, quand même, hein. C'est pas très chouette comme monde. Mais quand on est dans un monde où on a des dents nucléaires, alors là, ça devient carrément... Il y a du souci à se faire, hein. Et c'est ça la chose.
Oui, c'est qu'on risque à terme de ne plus vraiment bien maîtriser, quoi.
C'est surtout qu'à terme, on est pris dans une logique, dans cette logique ami-ennemi, où on ne peut définir l'autre que comme un ennemi. La Chine, c'est forcément un ennemi. La Russie, c'est... Alors là, on n'en parle même pas.
Oui, il ne me semble pas que ce soit ça que dit Aristote. Moi, il me semble qu'au contraire, Aristote dit qu'on doit tous s'entendre. Et il dit avant tout que il faut aller vers ce qu'il appelle la vertu, c'est-à-dire la pratique du juste milieu qui permet d'accéder au bien-être pour tous, et que c'est principalement la philosophie de Aristote finalement. C'est ce juste milieu, la vertu pour le bonheur de tous, un monde où chacun peut s'adonner lui-même librement à ses passions, à ses plaisirs. Sans porter atteinte aux autres, tant le système est suffisamment bien construit.
Alors ça, c'est justement ce que diront les gens qui sont en place. Nous, on va construire un système bien, vertueux, etc., etc. Si on les écoute, mais la question, c'est leur façon de penser. C'est pas tant ce qu'ils disent, enfin si, c'est ce qu'ils disent, bien évidemment, mais c'est leur façon de penser qui, elle-même, est erronée. Parce qu'ils peuvent dire une chose et avoir une façon de penser qui implique, qui mène à des conséquences totalement opposées à celles qu'ils pensent défendre en réalité. Et là, on est là, aujourd'hui, on est dans une, en particulier en France, c'est très visible, mais pas qu'en France, hein, c'est un peu visible dans toute l'Europe à l'heure actuelle, il y a une façon de penser, mais qui est totalement à côté, qui est erronée. Et je dirais que Trump a beau jeu de dire, parce que là, les Américains viennent de sortir quelque chose qui s'appelle le National Security Strategy, dans lequel ils redéfinissent intégralement leur stratégie, et là-dedans, Trump lui-même parle du déclin civilisationnel de l'Europe. Et oui, il y a un déclin civilisationnel de l'Europe. Quand on n'est plus capable de penser au niveau adéquat, effectivement, ça entraîne un déclin.
Effectivement, oui, je l'ai vu. J'ai vu. Et aux États-Unis, le grand mot, c'est le wokisme. Et le wokisme à l'Europe, ça fait des ravages.
Oui, alors c'est...
Aux États-Unis, ils arrivent encore à se contenir. Mais alors, en France, avec toute cette jungle et toutes ces nationalités différentes qui sont autour de l'Europe, je parle de l'Europe de l'Est, avec des gens, des peuples qui sont même, qui n'ont même pas d'État encore. Je parle de l'Afrique du Nord, pareil. Eh bien, on a vraiment de quoi faire, on a de quoi s'y perdre.
Oui,
le wokisme.
Alors, je pense que si c'est le wokisme n'est que l'expression de quelque chose de beaucoup plus vaste. Hein. C'est même pas. Je suis pas sûr que ce soit la chose en tant que telle. C'est une expression de gens, de civilisation, de société qui perdent la boussole. Littéralement, parce qu'à certains moments, elles ne font plus justement le travail d'aller, de comprendre, de se re-questionner en termes justement de leur façon de penser. Et qu'est-ce qui fait que...
En fonction de ce qui fait leur culture historique, gauchesse, c'est pas mal finalement pour comprendre ces questions-là. Le désenchantement du monde, c'est bien.
Oui,
c'est... Même si c'est vieux. Hein.
Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont très, qui ont des choses intéressantes à dire. Mais après, il y a tout un travail de refonder une façon de penser le monde de manière adéquate.
On a eu de la chance, enfin quelque part, dans notre malheur de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu quand même la chance de pouvoir redéfinir certaines notions et repartir sur bonne base, notamment avec toutes les déclarations qui ont été faites après la libération, et notamment l'évacuation des derniers rescapés des camps.
Oui.
Ça a fait des prises de conscience. Et tout ce qui s'en est suivi, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, proclamée par l'ONU, et tout ça, ça nous avait amené à poser des jalons et à poser des paramètres culturels dont on pensait qu'ils allaient être éternels. Dedans, il y avait la France ouverte sur le monde. Il y avait une certaine forme de pensée du cosmopolitisme, d'accueil des autres. La France, on mettait en avant l'universalisme à la française. Mitterrand avait été très fort là-dessus. Et puis il y a eu aussi une révolution culturelle, un changement social fort, avec des luttes pour l'émancipation des femmes.
Oui.
On refera pas toute la genèse de cette histoire-là, on la connaît très bien, notamment dans les années 70. Et ça a beaucoup avancé, et on pensait que c'était pour toujours qu'on avait réussi à mettre en place un carcan suffisamment solide et qu'il allait rester tout le temps. Et en fait, parce que certains, je pense, se sont fait l'illusion que c'était la véritable identité, la nature profonde de la France, que d'être universaliste dans un pays ouvert aux étrangers avec des femmes libérées. Et puis finalement, en ce moment, on assiste à tout le contraire, on assiste à un effondrement et une fracture de ces points de repère là, et je me demande ce qui va en sortir. Quelque part, ce qui est dans le rapport américain, il y a quand même du vrai quand il parle d'effondrement culturel européen.
Ah bah évidemment, et soit dit en passant, les Américains y ont quelque peu participé.
Tout à fait.
Accessoirement.
Et une forme d'acculturation, quoi.
Quand ils parlent du soft power américain, c'est une réalité. Mais la question, il y a deux choses. Bon, il y a ce rapport, ça c'est une chose. Pour moi, je le définirais de manière assez simple, c'est que d'une certaine manière, Trump est en train de dire, nous, ça nous intéresse pas de continuer à faire, comment dire, cette vision de globalisation, d'être la puissance dominatrice au monde, parce qu'on sait très bien la réalité sous-jacente étant qu'il y a quand même un principe de réalité, notamment avec la Chine. Donc ça, au moins, Trump, je pense qu'il a ce principe de réalité en tête. Et on va, en gros, nous, on va se replier sur notre sphère d'influence bien comprise, c'est-à-dire la sphère d'influence américaine. C'est quand même toutes les Amériques, c'est pas simplement l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique latine, et c'est accessoirement, c'est le Canada et c'est le Groenland quand même, hein. C'est-à-dire qu'on assure, on fait pas de guerre militaire, mais par contre éventuellement la guerre économique, ça, pas de problème.
Elle existe depuis longtemps, il y a aussi une guerre culturelle profonde. Hein.
Oui, mais... pour Trump, lui, c'est un businessman. Lui, sa vision du monde, il la voit au travers du business. C'est comme ça qu'il comprend le monde. Donc, au moins, on peut se dire, on peut faire le pari, hein, on verra si ça, ce qu'il en sera, c'est que lui, il recherche pas, il se veut être un homme de paix. Je crois que pour lui, la façon dont il le pense, c'est une chose, mais lui, c'est peut-être une illusion, j'en sais rien, mais c'est comme ça qu'il se voit, en tout cas. Donc, bon, ok, très bien.
C'est déjà une bonne chose.
C'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il y arrivera ou pas, ça c'est une autre chose. Après, il y a la question par rapport à ce que tu disais, parce que oui, l'universalisme, moi je pense que la France a par essence, plus que tout autre pays, c'est une de ses grandes qualités, cette vision-là, mais tout dépend.
Parce que surtout, fort malheureusement, pendant longtemps, a tendance souvent à ne rester qu'une vision.
Oui, puis c'est surtout, ça peut devenir n'importe quoi.
En plus,
ça peut devenir. Et là, c'est devenu une espèce de, comment on pourrait appeler ça, de slogan vide de sens. Parce qu'à un certain moment, la connaissance, c'est quelque chose de vivant. Et là, si le grand problème, un des autres grands problèmes qu'on a en France et de cette pensée aristotélicienne, justement, c'est de vouloir mettre les choses en cage. C'est-à-dire qu'on veut des formules bien ficelées, en quelque sorte, mais on ne voit pas une formule, par exemple, en mathématiques, ce n'est qu'un squelette, en réalité. C'est le squelette, c'est ce qui reste d'un processus de découverte qui a pu prendre des vies entières pour plusieurs scientifiques, et on résume ça avec un squelette, je ne sais pas, le théorème de Pythagore qu'on apprend à tous les étudiants. Ben moi, j'ai été totalement bluffé, en quelque sorte, quand j'ai compris ce que ça représentait d'un point de vue géométrique. Et si on apprenait ça tout simplement aux enfants, ils n'auraient aucune difficulté à apprendre le théorème de Pythagore. Mais apprendre le théorème de Pythagore en termes géométriques, ça veut dire qu'on donne la clé de la compréhension, du processus de compréhension. Et des fois, certains préfèrent qu'on donne juste la version finale, on applique et on ne comprend pas comment ça a été généré. Donc ça, il y a déjà ce problème-là. Après, la question, comme je dis, la connaissance, c'est pas quelque chose par définition. Si on veut figer la connaissance, ben on en fait un cadavre. Et aujourd'hui, la connaissance, on en fait un truc, oui, on en fait quelque chose de mort. Et dans la conférence, justement, ça a été amené par les jeunes, parce que c'était très axé aussi sur le mouvement de jeunes. D'ailleurs, on va avoir une conférence là, le 14, qui va être une conférence par Zoom internationale du mouvement de jeunes. Et là, on a eu une des représentantes de ce mouvement de jeunes qui s'appelle Megan Dobrot, qui a fait une présentation sur comment, en fait, dans notre univers, si on veut vraiment être dans cet univers, il est absolument fondamental de comprendre que l'avenir détermine le présent. C'est pas le présent qui détermine l'avenir, c'est l'avenir qui détermine le présent.
Tu vas nous expliquer tout ça, Odile, c'est très intriguant, puisque a priori on se demande comment l'avenir qu'on ne connaît pas pourrait déterminer le présent. Et je vais, en attendant, quand même laisser nos spectateurs et nous-mêmes souffler un petit peu en écoutant une musique de ton choix.
Tout à fait.
Alors, je t'écoute. On écoute. Qu'est-ce que tu voudrais écouter ? Alors, on laisse la surprise à nos auditeurs. Thank you. voici. Donc, chers auditeurs, donc la surprise, bah, c'était tout simplement la symphonie numéro 8 de Dvorak, le premier mouvement, un extrait. On peut pas mettre beaucoup de musique parce que l'émission, elle a un temps et Odile a beaucoup de choses à dire. Alors Odile, explique-nous donc comment l'avenir peut déterminer le présent.
Bien, il y a un poète qui s'appelle Percy Shelley qui évoquait les ombres gigantesques que l'avenir projette sur le présent. Et donc lui dit les poètes sont le miroir de cela. Et d'une certaine mesure, c'est un petit peu la même chose des grands scientifiques, des philosophes, ou voire dans les meilleurs des cas des hommes d'État. Et je vais donner un petit exemple de ça, par exemple, avec Einstein. Vous savez qu'Einstein, une des choses qui l'inspirait beaucoup, Einstein était violoniste aussi. Et donc lui, il le dit d'ailleurs, l'explique très bien, c'est que des fois, il se retrouvait, il jouait tout seul le soir, et c'est à ce moment-là où il avait des idées qui lui survenaient en jouant des choses qu'il pensait, qui passaient dans son esprit. Et effectivement, ça donne un petit peu un sens de cette dimension qu'on met toujours de côté à l'heure actuelle. Parce qu'on voit toujours les choses par rapport aux présences qu'on a maintenant. Et quand on commence à penser en ces termes d'avenir, c'est que des solutions qui paraissent totalement impossibles dans des circonstances présentes, on s'aperçoit qu'en fait, on peut transformer des circonstances présentes actuelles, qui parfois peuvent être désespérées, en quelque chose de nouveau et de meilleur. Et ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que si on regarde, par exemple, ce que font les Chinois à l'heure actuelle, eux, ils se projettent dans cet avenir, c'est-à-dire qu'ils ont une vision d'avenir où ils disent « voilà, on veut en être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. » On pense le temps long. Parce qu'aujourd'hui, si ce qu'on fait a un sens, ça ne peut avoir un sens que par rapport aux générations qui viennent après nous. Aujourd'hui, on est dans un monde où on parle toujours de la dette. Eh bien, il y a une seule dette, en réalité, qu'on doit honorer pour de vrai. C'est la dette envers les générations futures. Et ça, on n'y pense pas assez. C'est-à-dire qu'il y a la dette, ce qu'on doit à ceux qui sont venus avant nous, qui ont fait tout un boulot pour que nous, on vive. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui, il y a 100 ans de cela, se sont dit, tiens, on veut que la population vive dans de meilleures conditions. On veut que les enfants, quand ils naissent, ils bénéficient tout de suite de soins de qualité. Donc, on a formé, par exemple, en médecine, on a formé tous les... les sages-femmes, par exemple, on a fait en sorte que les enfants, dès leur plus jeune âge, soit dans la meilleure santé possible, qu'ils aient un niveau d'éducation adéquat, et on leur doit à ces gens-là. Ils n'ont pas fait tout ce travail pour rien. On leur doit la liberté qu'on a. Mais il y a aussi ce que nous devons aux enfants qui ne sont pas encore nés et qui sont ceux des générations futures qui arrivent, parce qu'on doit assurer qu'elles vivent dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, justement, le grand problème, ça c'est un des autres grands problèmes, c'est que les gens s'en fichent comme de l'an 40, beaucoup de gens, je veux pas généraliser, mais c'est quand même, beaucoup de gens pensent, après moi le déluge, je veux d'abord, moi, réussir dans ma petite vie, ma carrière, patati patati patala, avoir mon petit havre de paix et tout ça, puis ce qui se passe après moi, de toute façon, je n'y peux rien. Et donc, je m'en fiche. Alors, c'est vrai que souvent, on peut avoir l'impression que on n'y peut rien. C'est pas toujours si facile que ça. C'est un fait. Mais on est dans une société, on n'est pas tout seul sur son île. Voilà. Et ça, c'est quand l'avenir se manifeste et nous appelle, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment comme cela, en fait, tout simplement.
Oui. D'accord, ok, là tu nous as bien éclairé sur quelque chose de fondamental. L'émission va bientôt prendre fin parce que il faudrait quand même qu'on puisse écouter un minimum de musique. donc je vais laisser. Est-ce que tu aurais d'autres choses que tu voudrais rajouter?
Oui, il y a peut-être une chose que je pourrais rajouter, toujours en lien avec cette conférence et la question de cet avenir qui se projette et des ombres de l'avenir et en quelque sorte les échos du passé d'une certaine manière. Nous appelons l'Institut Schiller, par référence à Friedrich Schiller. Et il se trouve que Friedrich Schiller était aussi historien. Il n'était pas simplement poète et dramaturge, il était aussi historien. Et il avait fait une leçon, sa leçon inaugurale, je crois que c'était à l'université de Iéna, si je ne me trompe pas, en 1789. S'appelait « Qu'appelle-t-on l'histoire universelle et pourquoi l'étudier ?» Et ça c'est très important parce que si on ne comprend pas l'histoire, pas simplement l'histoire de son pays, l'histoire de son pays, il faut la maîtriser. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est parfaitement scandaleux la façon dont l'histoire est abordée aujourd'hui auprès des lycéens, des étudiants, est absolument scandaleuse parce que c'est n'importe quoi. Le minimum pour je vois pas comment on peut se dire un citoyen français si quelque part on connaît même pas l'histoire de son pays. Franchement, là, il y a un problème. Et pareil pour les autres pays, soit dit en passant. Mais c'est vrai aussi pour l'histoire universelle parce que si il faut que les gens puissent avoir un sens de ce qui s'est passé dans l'ensemble, dans l'histoire de l'humanité. Et donc c'est ce que Schiller met en avant. Et lui, il proposait une méthode pour aborder cette question. Et ce qu'il disait, pour étudier l'histoire, on ne doit pas suivre un ordre chronologique en commençant par l'événement le plus ancien pour remonter jusqu'à nos jours, parce que l'histoire est ainsi faite que l'on reste dans le doute sur les sources. Donc les guerres, les incendies, la destruction des sources font qu'elles ne sont peut-être plus disponibles. Donc Schiller lui disait qu'il ne faut pas partir des premiers écrits historiques pour arriver à nos jours, mais plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en observant les forces à l'œuvre actuellement, on peut d'une certaine manière reconstituer ce qu'a dû être le débat d'idées à l'époque étudiée. C'est-à-dire qu'on revient en arrière et c'est important parce que, soit on est dans ce truc purement consécutif, 1 plus 1 plus 2 plus tatata, ou d'avoir des dates précises, mais en réalité, l'histoire, c'est d'abord et avant toute chose le débat d'idées. Et je pense que c'est très important de voir ça parce que la plupart des gens, quand on leur demande qu'est-ce qui fait que l'histoire avance, ils pensent toujours que c'est la force des armes, la force de la guerre et tout ça. Ben non, ça c'est faux. C'est la force des idées. Ce sont les idées qui sont les moteurs de l'histoire. C'est ça qui fait avancer l'histoire. Mmh. Et on se rend compte d'ailleurs et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, en réalité, quand il y a des dangers de guerre, c'est parce qu'il y a des idées qui sont en train d'émerger, qui remettent en cause un ordre dominant. Et aujourd'hui, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit bien, là, c'est l'idée des BRICS, l'idée de la coopération, du développement, remet en cause un ordre dominant. Et cet ordre dominant essaye de lancer des guerres pour conserver cette domination. Donc on est dans cette problématique-là, précisément.
Très bien. Aujourd'hui, on verra bien quelles nouvelles idées pointeront lorsque ça ira un petit peu mieux. En tout cas, on va être obligé, chers auditeurs, de vous laisser sur cette émission. Mais Odile, on va en faire plein d'autres. Donc, à partir du mois de janvier, il ne me reste plus, chers auditeurs, que vous souhaiter d'excellentes fêtes. Ce sera la dernière émission de l'année 2025. Odile, je te laisse dire au revoir.
Eh bien, écoutez, à tous de très bonnes fêtes et puis surtout préparons, je pense que la meilleure des fêtes, c'est de préparer 2026, de faire en sorte que ce soit vraiment une année de changement où cette lame de fond qu'on pressent à l'heure actuelle, on voit bien. Et voilà, il faut l'accompagner, il faut faire en sorte qu'elle aille dans la bonne direction.
Cette année 2026 qui a été déterminante pour notre année passée 2025. Bonne soirée à tous, au revoir.